Vous écoutez, on lit pour vous.
Dépression, obésité, manque de sommeil, les téléphones intelligents pourraient mettre vos enfants en danger, suggère une étude. Un texte de l'agence QMI, publié le 1er décembre 2025 dans le Journal de Montréal. Faut-il donner un téléphone portable à son préadolescent? Une nouvelle étude suggère que répondre oui trop tôt pourrait nuire à sa santé. Dépression, obésité et manque de sommeil sont plus fréquents chez les jeunes qui obtiennent un téléphone avant 12 ans. De nombreux parents font face à un dilemme. Offrir un téléphone portable à leur préadolescent pour assurer sa sécurité lorsqu'il sort seul, tout en craignant qu'il devienne dépendant de cet appareil. L'idée de pouvoir rester en contact rassure, mais l'usage excessif des écrans inquiète. Ces préoccupations sont fondées. Selon une étude publiée lundi dans la revue Pediatrics, menée sur plus de 10 000 enfants de 12 ans, elle révèle que les jeunes qui obtiennent un téléphone intelligent plus tôt sont davantage à risque de souffrir d'obésité, de dépression et de manque de sommeil. Et plus le téléphone est acquis tôt, plus les risques augmentent. L'étude présente toutefois certaines limites. Elle n'examine ni l'usage précis du téléphone, ni le temps passé à l'écran, deux éléments qui pourraient influencer la santé. Elle ne permet pas non plus de déterminer si ces tendances s'observent chez des enfants plus jeunes ou plus âgés. Malgré ces limites, les chercheurs de l'étude, dont son auteur principal est psychiatre au Children's Hospital of Philadelphia, le Dr. Rand Barzilay, estiment que leurs résultats devraient guider des parents dans leurs décisions concernant les téléphones intelligents et encourager la création de politiques publiques visant à mieux protéger les jeunes. Des conseils à prendre en compte. Envisager de retarder l'accès au téléphone intelligent. À la lumière des résultats de l'étude, il est recommandé de repousser l'achat d'un téléphone intelligent pour un jeune adolescent et d'opter plutôt pour d'autres moyens de communication, comme un simple téléphone à clapet. Interdire les téléphones dans les chambres. Le Dr. Rand Barzilay recommande de garder les téléphones hors des chambres la nuit, car les enfants ont tendance à les utiliser sous les couvertures, perturbant ainsi leur sommeil. Surveiller la santé mentale des enfants. L'un des principaux liens entre téléphone intelligent et dépression vient probablement de la culture de la comparaison, a souligné CNN. Sur les réseaux sociaux, les gens montrent une version embellie et filtrée de leur vie. Il est facile, surtout pour des enfants sensibles et peu sûrs d'eux, de croire qu'ils ne sont pas à la hauteur. C'est pourquoi il est essentiel d'expliquer aux enfants pourquoi ils ne doivent pas se comparer à ce qu'ils voient en ligne. Faites savoir à votre adolescent qu'un téléphone intelligent peut affecter sa santé et que vous voulez l'aider à développer des habitudes saines. Toutes les quelques semaines, discutez ensemble de son utilisation, a conseillé le Dr. Barzilay. C'était dépression, obésité, manque de sommeil. Les téléphones intelligents pourraient mettre vos enfants en danger, suggère une étude, un texte de l'agence QMI, publié le 1er décembre 2025 dans le Journal de Montréal.
Une oreille sur deux, le coût du silence. Une lettre, publiée le 10 décembre 2025, sur le site de TVA Nouvelles. Dans un Québec qui vieillit, un enjeu de santé publique silencieux, mais bien réel, prend rapidement place, la perte auditive. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, un individu sur quatre en souffrira d'ici 2050. Déjà, près de 10 % de la population générale et 30 % des adultes de plus de 60 ans sont atteints. Chaque jour, des milliers de personnes vivent avec une perte auditive, mais toutes ne sont pas égales devant l'accès aux soins. Le programme actuel d'aide auditive de la RAMQ exclut une partie importante de la population, laissant de nombreux Québécois sans la prise en charge dont ils auraient besoin pour maintenir leur santé, leur autonomie et leurs liens sociaux. Pour une réforme au bénéfice de la santé auditive collective, lourde conséquence. Cette iniquité touche principalement les personnes retraitées, les personnes sans emploi et celles inscrites à un programme d'études non reconnu par le ministère. Pour ces groupes, la RAMQ ne rembourse qu'une prothèse sur deux en cas de surdité bilatérale. Et si la personne est malentendante d'une seule oreille, aucune prothèse n'est couverte. Seuls les enfants et les étudiants inscrits à un programme reconnu peuvent obtenir un remboursement pour un appareil en cas de surdité unilatérale. Les conséquences sont lourdes. Les personnes malentendantes renoncent à s'équiper ou retardent leur appareillage, avec des effets réels sur leur qualité de vie, leur santé et leur sécurité. Lorsqu'elle n'est pas corrigée adéquatement, la perte auditive, même à une seule oreille, peut accentuer les risques de détérioration cognitive, d'anxiété, d'isolement social ou de chute. Au fil du temps, elle prive les personnes concernées de repères essentiels, complique leurs échanges quotidiens et peut, trop souvent, compromettre leur autonomie. La majorité des pertes auditives touchent les deux oreilles. Pourtant, plusieurs personnes vulnérables ne reçoivent qu'une compensation pour une seule prothèse. Concrètement, cela signifie qu'un jeune adulte vivant avec une trisomie 21, inscrit dans un programme d'adaptation scolaire qui ne mène pas à un diplôme officiel, n'y a pas droit. Toutefois, si cette personne a obtenu un appareillage auditif avant l'âge de 19 ans, elle bénéficiera d'un droit acquis qui lui permettra d'avoir des appareils auditifs couverts pour les deux oreilles toute sa vie. Un autre exemple, une jeune femme aux prises avec une maladie, momentanément retirée du marché du travail, ou bénéficiant de l'aide sociale, se voit, elle aussi, exclue de cette couverture essentielle. Même une personne qui approche de la retraite doit parfois s'appareiller en urgence avant de quitter son emploi, elle perd son admissibilité une fois retraitée. Obstacle. En limitant la couverture, on laisse entendre qu'entendre à moitié devrait suffire. Pourtant, les conséquences d'une perte auditive sont beaucoup plus vastes qu'on ne le croit. Elles touchent non seulement la communication, mais aussi la participation au marché du travail. Les personnes malentendantes rencontrent davantage d'obstacles pour garder un emploi ou réintégrer la vie professionnelle, ce qui a des effets directs sur leur autonomie financière et leur qualité de vie. Les impacts sur la santé et l'ensemble du réseau sont tout aussi importants. La perte auditive est aujourd'hui reconnue comme un facteur de risque modifiable de démence et une atteinte plus sévère augmente clairement ce risque. Elle est aussi liée à une hausse des chutes chez les aînés particulièrement, alors qu'un appareillage adapté peut contribuer à réduire ces incidents et d'améliorer considérablement le quotidien. L'appareillage auditif devient ainsi un véritable levier. Il agit sur des dimensions souvent sous-estimées et contribue à prévenir des complications lourdes, tant sociales que cliniques, tout en réduisant la pression sur le système de santé. C'est précisément là que la situation actuelle pose problème. En limitant la compensation, on se retrouve avec une mesure qui crée non seulement une inégalité d'accès aux soins, mais qui en réduit aussi l'efficacité. Et cela vient contredire l'objectif même du programme d'aide auditive du Québec. Soutenir la santé auditive, faciliter la communication et favoriser la participation sociale des personnes atteintes. Pour que le système réponde réellement à la réalité clinique et protège la santé auditive de tous, le gouvernement du Québec se doit d'élargir la couverture de la RAMQ afin de garantir un accès réel à une correction auditive. Autrement dit, chaque oreille présentant une perte auditive doit pouvoir être appareillée. Cette bonification du programme d'aide auditive permettrait enfin de compenser l'achat, la réparation et le remplacement d'une prothèse pour chaque oreille nécessitant une correction, réduisant ainsi les conséquences néfastes et permanentes d'une surdité non traitée, qu'elle soit physique, sociale ou économique. Parce que chaque mot, chaque voix mérite d'être entendu. La santé auditive n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Son co-signataire de la lettre, Claudine Brassard, directrice générale de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées de Robertval. Marie-Philippe Rodrigue, présidente, et Marie-Ève Beaulieu, vice-présidente de l'Association québécoise des orthophonistes et audiologistes. David Gélina, président de l'Ordre des audioprothésistes du Québec. Paul-André Galland, président de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Jeanne Choquette, présidente d'Audition Québec. Claire Moussel, directrice générale, Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs. Lucie Nau, directrice générale de Réseau québécois pour l'inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes. Yves Bouchard, président de la FADOC. Nathalie Mercier, directrice générale de la Société Alzheimer au Richelieu. Paul-René Roy, président de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. C'était « Une oreille sur deux, le coût du silence ». Une lettre publiée le 10 décembre 2025 sur le site de TVA Nouvelles.
Faire maison. Un texte de Nathalie Platte, paru le 1er décembre 2025 dans Le Devoir. On a tous besoin de se réparer l'intérieur pour faire de sa vie un monde habitable. Dessine-moi un monstre. C'était, et de loin, un de mes moments préférés de la clinique d'enfance, celui où je proposais à l'enfant de faire ce dessin après celui de la maison, de l'arbre, du chemin et celui de la famille. Je lui demandais de me dessiner un monstre. Nous étions au tout début de nos rencontres, alors que je cueillais son monde en réinvestissant ce lieu qui devrait être celui de l'enfance, mais qui, pourtant, était parfois déjà émietté sous trop de désirs de conformisme ou encore trop fragile pour s'habiter pleinement, le lieu de l'imaginaire. Nous nous mirions, l'enfant et moi, sachant qu'il était déjà question de grandes vérifications de part et d'autre. Aurions-nous ce qu'il fallait pour que je ne sois pas une adulte parmi d'autres à lui dire comment être, comment vivre, comment ne pas ressentir ce qu'il ressentait malgré lui? Serais-je une adulte de plus à lui dire « je vais t'aider » avant de disparaître, moi aussi, emporté par une restructuration, un changement de vie, une maladie? M'ajouterais-je à la longue liste d'adultes qui, tout en prétendant se relier, ne s'acquittaient que d'un rôle, d'une mission définie par un contrat, par des listes d'ancienneté, par des codes qui, bien qu'on les comprenne, n'avaient juste rien à voir avec ce qu'est l'attachement? Serais-je une psy de plus, un intervenant de passage ou Nathalie? Serais-je capable de tout prendre? Pourrais-je rouvrir les petites portes déjà fermées, les endroits de lui où il n'allait plus déjà, ou ne serais-je utilisé que pour manquer l'école, jouer au Playmobil, faire croire des choses auxquelles même lui ne croyait plus? Alors, je demandais, dessine-moi un monstre. Qu'il ait 5 ans, 8 ans ou même 11, qu'il trouve ça niaiseux, bébé ou encore fabuleux. Et alors, presque toujours, je voyais un peu de cette surprise mêlée d'embêtement, tandis qu'il comprenait qu'il pourrait peut-être oser ça, ici, le monstre en lui. Et, quand la magie opérait, on ouvrait alors tout un pan de son intériorité qui, presque toujours, nous faisait éclater de rire, nous rendait complices du secret. On ne se connaissait pas encore, mais peut-être cet enfant commençait-il à saisir qu'il pouvait, en ce lieu, se déposer comme nulle part ailleurs. Il pourrait oser encore un peu lever le mystère sur certaines parties de sa petite personne qu'il s'était pourtant juré de ne plus montrer à personne, dans la grande série de pactes envers lui-même qu'il s'était fait. Nous les faisons tous, ces promesses à nous-mêmes, dans ces âges du début de la conscience de soi, alors que les premières grandes blessures d'amour dressent les contours de ce qui deviendra, au mieux, notre terrain de jeu ou, au pire, notre arène de boxe. Oui, il ou elle pourrait me parler de son monstre. Il ou elle pourrait me dire aussi les monstres croisés sur sa route, pourrait déposer ici sa rage, sa destructivité, sa grande tristesse, son intensité, son besoin d'être aimé malgré tout cela, son besoin de se réparer l'intérieur pour faire de sa vie un monde habitable. La clinique d'enfance me manque de plus en plus, moi qui l'ai suspendue après avoir été trop malade dans mon corps pour donner l'énergie que l'enfance requiert dans un bureau de psy. Je vous depuis toujours, mais encore plus depuis que je me suis retiré de ce champ de pratique, une admiration inconditionnelle à tous ceux et celles qui, toute la journée durant, prennent soin, encadrent, accompagnent, font maison autour d'enfants qui dépassent les bornes, les cadres, les limites, tandis qu'ils ne cherchent que quelque chose comme un apaisement durable, une réparation de leur monde en ruine. Je pense à tous mes amis des centres jeunesse, notamment, constamment accusés de tout, alors qu'ils tiennent là où notre société ne va plus beaucoup, dans les marges, dans ce que les mots « protection de la jeunesse » impliquent pour vrai, au-delà d'un bel idéal social que nous ne nous donnons pas les moyens d'atteindre. Les histoires des centres jeunesse nous émeuvent le temps d'un spin médiatique, le temps de trouver quelqu'un à blâmer dans cette culture du blâme qui est la nôtre, celle qui nous permet encore de nous déresponsabiliser collectivement. La crise des pièces vides se place alors tout à côté de ce courriel envoyé cette semaine à tous les parents d'enfants d'âge scolaire par le Centre de services scolaires de notre région. Il est arrivé comme tous les autres cette semaine, en surchargeant mon petit centre de données personnelles, en piquant juste assez ma curiosité pour que je l'ouvre entre deux choses, entre mille choses, entre le bruit de l'avant et le bruit du devant. Dedans, pourtant, il y avait quelque chose de si puissamment triste que je n'ai pas su le lire sans penser « comment faire ?» On y demandait des familles d'accueil. On y disait « En Estrie, un enfant sur trois ayant reçu les services de la DPJ a eu besoin d'une famille d'accueil en 2024-2025 ». On y lisait l'appel désespéré, le manque criant de familles d'accueil sur le territoire. Ici, on usait encore de cet imaginaire ratatiné qui est celui de notre monde adulte, alors on ne pouvait pas lire le courriel comme on lit les autres, parce qu'on repensait à tous ces enfants connus, aimés, contenus du mieux qu'on le pouvait dans la clinique pendant ces années où ils essayaient de transformer le parcours d'obstacles de leur enfance en une histoire un peu plus harmonieuse. On s'assoit alors sur le tabouret de cet îlot neuf avec ce comptoir tout blanc, tout lisse comme nos vies, nos privilèges, notre réussite individuelle. Et alors on repense à ces histoires d'enfants qui auraient besoin d'une maison, pas d'un centre de réadaptation, qui cherchent autre chose que des éducateurs au soir venu. Et on se rappelle aussi les histoires difficiles de ces courageuses familles d'accueil, mal soutenues, mal comprises, par des intervenants bien intentionnés souvent, mais débordés toujours. Et alors on appelle le mari. On lui demande s'il a vu le courriel et on connaît son cœur, alors on sait que oui. Il dit « On ne peut pas maintenant », me rappelant que nous n'avons pas de pièces vides dans la maison. Ce qui nous réjouit parce que ça peut vouloir dire « plus tard ». Mais rapidement, on se trouve trop fou, sachant qu'on a déjà élevé 5 enfants, qu'on a aussi arrêté la clinique d'enfance parce qu'on était fatigué. Alors, on se dit qu'on va commencer par écrire là-dessus, en demandant droit dans les yeux au lecteur, à la lectrice, comment il se fait qu'il y ait si peu de personnes qui lèvent la main pour devenir famille d'accueil au Québec, alors que tout le monde lève le ton quand un scandale frappe le centre jeunesse. Alors on se dit ça et on espère que l'énergie sera au rendez-vous, parce qu'il faudra non seulement reprendre la clinique d'enfance, recueillir encore les histoires de monstres, jouer à la maman, survivre à tout, mais peut-être aussi préparer des chambres pour plus tard. C'était « Faire maison ». Un texte de Nathalie Platte, paru le 1er décembre 2025 dans Le Devoir.
Un acte antisémite d'une horreur sans nom. Un texte de Marie-Andrée Chouinard, publié le 15 décembre 2025 dans Le Devoir. Sajid Akram, 50 ans, et son fils Navid, 24 ans, tirent sans relâche en direction de la plage de Bondy, là où la communauté juive projetait de célébrer Hanouka dans l'insouciance et la joie. Capté depuis une résidence faisant face au pont où les assaillants ont pris place, la scène interminable de la fusillade est à glacer le sang. Les deux hommes n'interrompent leur tir incessant que pour crier et faire signe aux passants qui cheminent trop près de partir, ce qui vient soutenir la thèse terroriste et l'acte antisémite. Leur cible était juive et en train de fêter là-bas sur la plage. Ce dimanche 14 décembre 2025, restera gravé comme l'un des jours les plus sombres de l'histoire australienne. Sur la plage emblématique de Bondy à Sydney, alors que des centaines de personnes étaient rassemblées pour souligner le premier soir de la fête juive de Hanouka, le duo père-fils Akram a ouvert le feu, tuant au moins 15 personnes et en blessant 42 autres. 26 d'entre elles sont toujours à l'hôpital, dont 12 dans un état critique. Parmi les victimes, une fillette de 10 ans, un survivant de l'Holocauste et le rabbin Eli Schlanger, organisateur de cet événement destiné à célébrer l'espoir. Des familles venues allumer des bougies, symbole de la persévérance du peuple juif, ont été prises pour cible dans un acte de terreur antisémite délibéré. Des témoins décrivent une scène de panique absolue. Des enfants qui fuient en courant, des parents cherchant désespérément leurs proches, le bruit assourdissant des coups de feu résonnant sur cette plage fréquentée par tous. Un héros civil, Ahmed Al-Hamed, a risqué sa vie pour désarmer l'un des tireurs, sauvant probablement des dizaines de vies au prix de blessures par balle. Depuis son lit d'hôpital, il affirme avoir fait ce qui devait être fait, rien de plus. Pour l'Australie, terre de relative tranquillité, ce massacre constitue la deuxième pire tuerie de masse de son histoire moderne, après le massacre de Port Arthur, en Tasmanie, qui avait coûté la vie à 35 personnes en 1996. Depuis cette tragédie, l'Australie s'était enorgueillie de ses lois strictes sur les armes à feu et de son taux de criminalité relativement bas. L'Australie, terre d'immigration et de diversité, s'était longtemps perçue comme un refuge de tolérance, la plage de Bondy elle-même incarnant cette vision d'une Australie ouverte et accueillante. Il est impossible de scruter cet attentat de manière isolée, car il s'inscrit, hélas, dans une flambée alarmante de l'antisémitisme à travers le monde depuis les attaques terroristes perpétrées par le Hamas en sol israélien le 7 octobre 2023, au cours desquelles environ 1200 personnes furent tuées et 251 prises en otage. Depuis, les statistiques sont accablantes. Aux États-Unis, l'ADL, Anti-Defamation League, a comptabilisé plus de 9000 incidents antisémites l'an dernier, la donnée la plus élevée depuis le début de son recensement en 1979. En France, selon le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, 1570 actes antisémites ont été commis en 2024 contre 436 en 2022. Le Canada n'est pas épargné par cette recrudescence inquiétante. Selon B'nai B'rith Canada, le pays a enregistré 6219 actes de haine visant les Juifs en 2024, une augmentation de 124% par rapport à 2022, et le chiffre le plus élevé depuis le début de la compilation de ces données en 1982. C'est en Ontario et au Québec que ces manifestations de haine sont les plus nombreuses, ce qui accroît le sentiment d'insécurité de la communauté juive. Cette réalité brutale rappelle que les condamnations verbales faites par les gouvernements ne peuvent plus suffire. Ceux-ci doivent d'abord et avant tout reconnaître l'ampleur du problème et ne pas hésiter à le nommer. Trop souvent dans l'histoire, l'antisémitisme a été minimisé, banalisé, voire ignoré. Il est impératif de dénoncer cette haine pour ce qu'elle est. Il faut ensuite agir de manière concrète. La réponse rapide du gouvernement australien mérite d'être soulignée. Le Premier ministre, Anthony Albanese, a immédiatement convoqué une réunion d'urgence du cabinet pour annoncer son intention de réviser les lois sur les armes à feu. Les nouvelles mesures proposées incluent la restriction des permis d'armes aux seuls citoyens australiens, une limitation du nombre et du type d'armes autorisées, des renouvellements périodiques obligatoires des permis et un renforcement des contrôles à l'importation. L'un des tireurs, le père âgé de 50 ans, tué sur les lieux, possédait légalement 6 armes à feu enregistrées en tant que membre d'un club de tir. Le système a donc échoué. La lutte contre l'antisémitisme implique aussi un renforcement de la sécurité des institutions juives, une éducation renforcée contre tous les préjugés, une législation adaptée contre les crimes haineux et une vigilance accrue sur les réseaux sociaux où la haine se propage. L'Australie pleure aujourd'hui ses morts. 15 vies fauchées par la haine, 15 familles dévastées, une nation traumatisée. De cette tragédie doit naître une détermination renouvelée à faire cesser les horreurs de l'antisémitisme. C'était « Un acte antisémite d'une horreur sans nom », un texte de Marie-André Chouinard, publié le 15 décembre 2025 dans Le Devoir.